Vous écoutez, on lit pour vous.
Des robots sur le plancher des vaches, un texte de Benoît Valois-Nadeau, paru le 28 mars 2026 dans Le Devoir. Combien de compagnies d'ici peuvent se vanter d'exporter sur quatre continents des produits 100% conçus et fabriqués au Québec dans un domaine technologique de pointe, et ce depuis 50 ans? Loin des projecteurs, c'est l'exploit dont peut se targuer Rovibec, PME spécialisée dans la fabrication de robots destinés à alimenter les vaches laitières du monde entier. Au moment de la visite du Devoir, c'est encore un peu la fête dans les bureaux de Rovibec, situés en rase campagne, tout juste à l'extérieur de la municipalité de Nicolette. Ballons et affiches rappellent que, quelques jours plus tôt, l'entreprise de 70 employés a fêté en grand son demi-siècle d'existence. En 50 ans, l'entreprise est passée de la fabrication de chariots motorisés à la conception de robots capables d'accomplir le travail de plusieurs humains. Par exemple, le Ranger, qui a le look d'un aspirateur robot format géant, a pour mission de repousser vers les vaches le fourrage qu'elles déplacent en mangeant. « C'est notre vache à lait », résume avec le sourire Alexandra Rousseau, ingénieure et responsable du développement des affaires de l'entreprise. L'entreprise en fabrique de 8 à 10 par semaine et en vend 400 exemplaires chaque année partout dans le monde. Rovibec produit une version Nitro, deux fois plus grande, pour d'immenses fermes des États-Unis. Rovibec conçoit également des distributeurs automatisés qui, installés sur un rail, virevoltent au plafond des étables pour déverser nourriture ou litière dans l'enclos des vaches. Contrairement à l'image romantique qu'on peut s'en faire, les fermes laitières sont parmi les environnements les plus informatisés et robotisés qui soient. Un phénomène qui s'explique par le croisement entre la pénurie de main-d'œuvre agricole et l'accroissement de la taille moyenne des fermes. Au Québec, certaines fermes font figure de géantes avec 1000 bêtes, mais on est encore loin des gigantesques exploitations californiennes qui peuvent atteindre les dizaines de milliers de têtes. Dans de telles installations, la robotisation est en voie de devenir la norme. Si les clichés bucoliques sur le monde agricole en prennent un coup, le bien-être animal y gagne, affirme Alexandra Rousseau. Dans le fond, c'est pour qu'on laisse les vaches en paix. Ce sont des êtres sensibles. Plus elles sont relaxes, plus elles produisent. Grâce aux robots, qui sont très routiniers, elles ne se font pas déranger par des tracteurs ou de la machinerie. Rovibec affirme que ses produits favorisent l'uniformisation de l'alimentation des animaux, tout en aidant les vaches timides, qui craignent la machinerie ou leurs consoeurs plus dominantes. De la technologie terre-à-terre. Japon, Australie, États-Unis, France. Le carnet de commandes de Rovibec dépasse les frontières québécoises depuis longtemps. Le Québec ne représente plus que de 40 à 50 % des ventes de l'entreprise. Une chance, sinon l'entreprise serait dans le fumier jusqu'au cou, selon les dires d'Alexandra Rousseau, petite-fille du fondateur, Victor Rousseau, lui-même producteur laitier à la base. En ce moment, la production laitière en Amérique du Nord, ça ne va pas très bien, dit-elle. Le marché laitier est toujours changeant d'année en année et le Québec, ce n'est pas le plus gros investisseur en produits agricoles. Il y a des fermes en vente, d'autres manquent de relève. C'est difficile. L'entreprise, qui génère un chiffre d'affaires annuel de 16 millions de dollars, a récemment embauché un premier employé français pour l'aider à investir le marché européen, notamment l'Allemagne. La compagnie mise également sur la diversification de ses activités pour assurer sa survie à long terme. À partir du Ranger, elle a développé le Ranger Man, un véhicule automatisé destiné au transport de marchandises à l'intérieur d'usines ou d'entrepôts. Une dizaine d'entreprises au Québec emploient déjà la petite bête, qui se contrôle à l'aide d'un cellulaire ou d'une tablette. Même s'il est plutôt impressionnant de le voir déambuler seul au milieu d'une usine, la technologie derrière le Ranger Man est plutôt simple, assure Alexandra Rousseau. Pas de système de géolocalisation ultra sophistiqué ou d'intelligence artificielle à bord. Seulement des composantes mécaniques et électroniques fiables, assez robustes, pour résister aux aléas de la vie industrielle. On veut faire une gamme de produits accessibles pour les PME, on vise avant tout la fiabilité, explique Alexandra Rousseau. C'était « Des robots sur le plancher des vaches », un texte de Benoît Valois-Nadeau, paru le 28 mars 2026 dans Le Devoir.
Pourquoi est-ce bon pour le cerveau de rester entouré? Un texte de Catherine Anfield, paru le 22 mars 2026 dans la presse. Voir des amis, de la famille, participer à des activités de groupe, avoir quelqu'un à qui se confier, tout ça, c'est bon pour le cerveau. Voici pourquoi. Facteur de risque. L'isolement social est un facteur de risque de la démence. Une personne isolée socialement est 60% plus à risque qu'une personne entourée, résume Sylvie Belleville, directrice du Réseau québécois de recherche sur le vieillissement et professeure à l'Université de Montréal. C'est beaucoup, mais c'est similaire aux autres facteurs de risque, comme la sédentarité. L'isolement social a même été associé à une diminution du volume de matière grise dans les lobes frontal, prise de décision, attention, et temporal, langage, mémoire du cerveau. Cerveau. Les personnes entourées sont aussi plus vives d'esprit, selon une étude d'Aging and Mental Health. Des chercheurs des universités McGill et Laval ont analysé une cohorte de 30 000 Canadiens en sélectionnant les gens sans problème cognitif. Plus leur tissu social était solide, meilleure était leur fonction cognitive, attention, multitâche, et leur mémoire épisodique, celle des souvenirs. Même si la taille des effets est faible, c'est un signal, estime la co-auteure principale de l'étude, Daiva Nielsen, professeure agrégée en nutrition à McGill. Plus les participants vieilliront, plus l'effet risque d'être prononcé, anticipe la chercheuse. Interaction. Les interactions sociales stimulent énormément le cerveau, plus que n'importe quelle autre activité, indique Daiva Nielsen. Vous recevez des informations des autres personnes, vous les traitez de manière très rapide pour savoir quoi dire ensuite, quel ton adopter, comment gérer le contact visuel. Il se passe tellement de choses. Selon la chercheuse Sylvie Belleville, les contacts sociaux permettent de construire sa réserve cognitive, cette capacité qu'aurait le cerveau à rester malléable grâce à de meilleures connexions entre les neurones. Parce qu'on interagit, on sort, on va au musée, illustre-t-elle. Stress. Les liens sociaux réduisent aussi le stress et l'inflammation, deux facteurs qui ont une incidence directe sur la santé cérébrale. Le stress a un impact majeur sur l'hippocampe, une région du cerveau impliquée dans la mémoire, souligne la professeure Sylvie Belleville. Lorsqu'on a quelqu'un à qui parler, lorsqu'on est inquiet, le stress diminue. L'isolement social est aussi étroitement lié à la dépression, un autre facteur de risque de la démence. Alimentation. Un environnement social plus solide favorise aussi de meilleurs comportements alimentaires. En regardant la même cohorte de 30 000 Canadiens, la professeure Nielsen et ses collègues ont relevé des associations claires. Les gens isolés mangent moins de fruits et légumes et moins de protéines. Ces personnes pourraient donc avoir une alimentation moins variée, plus riche en glucides et en aliments transformés, résume Daiva Nielsen. En vieillissant, les personnes seules peuvent avoir plus de mal à cuisiner et à faire l'épicerie. Santé. En 2023, le Bureau du médecin général des États-Unis a identifié le manque de liens sociaux comme un facteur de risque majeur de mortalité précoce, d'une ampleur comparable au tabagisme, à la consommation excessive d'alcool, à l'inactivité physique et à l'obésité. Si vous faites une chute et que vous vivez seul, il se peut qu'il n'y ait personne pour vous porter secours en cas d'urgence, résume Daiva Nielsen. Lorsqu'on souffre d'une démence, prendre soin de sa santé physique, bien manger, prendre sa médication, etc., permet de réduire de beaucoup la vitesse de progression de la maladie. C'est quoi être isolé? L'isolement social se définit par le fait de répondre à au moins deux des critères suivants. Vivre seul, voir de la famille ou des amis moins d'une fois par mois et ne pas s'engager dans des activités sociales hebdomadaires. et être socialement entouré ? Ça ne veut pas dire avoir énormément d'amis, nuance Sylvie Belleville, mais d'avoir un contexte social sain, des relations agréables et sécurisantes, des gens qui se préoccupent de vous et avec qui vous partagez des choses. Dans ses études, l'équipe de Daiva Nielsen tient compte du soutien social, de l'ampleur du réseau et de la qualité des relations. C'était « Pourquoi est-ce bon pour le cerveau de rester entouré ?» un texte de Catherine Anfield paru le 22 mars 2026 dans La Presse.
Ce que nous dit l'affaire Julien Lacroix. Un texte de Marie-France Bazot, paru le 31 mars 2026 dans La Presse. À l'automne 2025, je lançais un documentaire, « Le grand retour des annulés », où, à la suite du retour progressif de certains des annulés du hashtag MeToo dans l'espace public, je me demandais si le pardon était possible. Conclusion ? C'est complexe et difficile, mais ultimement, c'est le public qui décide en achetant ou pas des billets pour les spectacles de ses chanteurs ou humoristes. La dernière quinzaine m'a donné tort. L'humoriste Julien Lacroix, recruté puis lâché par le groupe Juste pour rire, a annoncé en plein spectacle, le 20 mars, qu'il mettait fin à sa carrière. D'autres humoristes refuseraient de voir leur nom associé à celui de Lacroix sur une affiche. Finalement, c'est le milieu et non pas le public qui aura eu le dernier mot. J'avais donc parlé de ce que soulève le geste de Lacroix et, comprenons-nous bien, pas le défendre. Le terrain est miné dès qu'on touche le sujet de l'annulation. Je parle comme femme, solidaire des victimes, comme sociologue qui s'interroge sur sa société et comme documentariste qui a passé un an à réfléchir à ce sujet, qui a rencontré des dizaines d'intervenants et retourné chaque pierre. Lors du lancement du documentaire, on m'a reproché de ne pas avoir les gros noms de l'annulation. Ce n'est pas faute d'avoir essayé, on les a tous appelés. Ce furent autant de refus de participer, motivés par la hantise de revivre et de faire revivre à leurs proches leur mise au ban. C'était viscéral. Julien Lacroix fait partie de ceci. Des victimes et des expertes ont aussi refusé de parler, ne voulant pas voir leur nom associé à celui d'annulé. Le documentaire fut ardu à réaliser. En fait, ce fut une de mes entreprises les plus compliquées. En matière d'annulation, le « qui parle » est capital. Toute parole n'a pas le même poids dans ce dossier radioactif. Les victimes prennent courageusement la parole. Leurs histoires sont si douloureuses que personne d'autre ne semble autorisé à parler. Certaines disent aux agresseurs allégués « Vous aviez des privilèges et vous avez merdé. Maintenant, taisez-vous. » Pas faux, mais définitif. La parole ne circule plus. La discussion est close. Les spécialistes et les hommes, eux, sont plutôt discrets. Il existe une omerta, une peur, celle d'être annulé. Pourtant, loin des caméras, plusieurs s'inquiètent du climat qui règne, réfléchissent au fait que les retours, les rédemptions se jouent à deux vitesses à la tête du client. J'ai été candide dans la conclusion du grand retour des annulés. J'espérais que ce documentaire ouvre une discussion sociétale. Je sentais qu'on entrait dans une ère post-hashtag moi aussi. Quelques mois plus tard, je constate que c'est le contraire qui se produit. Les positions sont hyper tranchées, plus radicales que jamais. Les canaux de la conversation nécessaires sont bouchés. On a même vu dernièrement des condamnations par association quand une telle a liké un statut de Julien Lacroix et s'est fait ramasser. L'hyper-émotivité, la radicalité, le « avec nous ou contre nous » empêche toute nuance nécessaire au dialogue social et à la reconstruction. Le retrait de la croix pose des questions fondamentales. Le pardon existe-t-il dans notre société? Visiblement pas pour tous ou toutes. Combien de temps une annulation dure-t-elle? De quelques années à toute une vie. Tout se vaut-il? En matière d'agression, face aux réseaux sociaux, tout s'équivaut, de l'inconduite à l'agression. Pour ceux qui ne sont pas accusés devant la loi, le tribunal populaire est impitoyable et ses paramètres arbitraires. Et la douleur des victimes est indicible. Qu'est-ce que cet épisode Lacroix dit de notre société? Que malgré les nombreux efforts pour assainir les milieux problématiques comme celui de l'humour, la rancœur demeure. Ça parle de critères moraux de plus en plus inaccessibles, de paroles minées, d'hommes et de femmes face à face qui se regardent avec méfiance, pour rester poli. On répète sur tous les tons qu'il faut que la honte change de camp. Un réel après hashtag MeToo, pour profondément reconfigurer la société, devra être plus qu'un concept, mais des gestes de part et d'autre. Pour ça, ça va prendre des discussions, de l'écoute, beaucoup de travail et de bonne foi, et visiblement, on n'est pas encore rendu là collectivement. Le processus de guérison est-il même entamé? Je m'interroge. C'était « Ce que nous dit l'affaire Julien Lacroix », un texte de Marie-France Bazot paru le 31 mars 2026 dans la presse.
Alimentation et grossesse. Le discours inexact et alarmiste d'une influenceuse pour contrôler les pics de glycémie inquiète les experts. Un texte paru le 8 avril 2026 sur tvanouvelles.ca. Manger 4 œufs par jour ou éviter les pics de glucose. L'influenceuse française Jessie Inchauspé prodigue dans un nouveau livre des conseils aux femmes enceintes censées améliorer la santé de leur bébé. Mais des professionnels de santé mettent en garde contre un discours inexact et alarmiste. Autoproclamée déesse du glucose, Jessie Inchauspé, influenceuse en nutrition à plus de 6 millions d'abonnés sur Instagram, doit sa popularité à sa « glucose révolution », titre de son premier livre paru en France en 2022 et traduit dans une quarantaine de langues. Pour contrôler les pics de glycémie, néfastes selon elle, cette biochimiste de formation recommande vinaigre de cidre ou capteur de glycémie. Des diabétiques qui ont besoin de ce dispositif médical pour mesurer le taux de sucre dans le sang et des médecins selon lesquels le lien entre pic glycémique et maladie n'est pas démontré, s'en sont indignés. Dans les médias où elle fait la promotion de son livre « 9 mois qui comptent pour la vie, comment votre alimentation pendant la grossesse joue sur le futur de votre enfant », Robert Laffont, Jessie Inchauspé explique avoir créé elle-même un programme au vu d'un gouffre entre ce que la science savait et ce qu'on lui disait pendant sa grossesse. Sa théorie. Ce qu'une femme mange pendant sa grossesse influence le développement et la santé du bébé à court et long terme. Ainsi, selon elle, l'alimentation de la femme enceinte programme le bébé au niveau épigénétique et affecte durablement ses risques de multiples problèmes de santé. Diabète de type 2, dépendance au sucre, santé mentale, allergie. Ce discours manque de nuances. Pour Marion Lecorguier, chercheuse en épidémiologie sur l'alimentation, la santé périnatale et celle de l'enfant, à l'Institut français de la santé et de la recherche médicale, INSERM. Si les associations sont plutôt bien établies pour le risque de maladies métaboliques ou de surpoids chez l'enfant, L'impact de l'alimentation pendant la grossesse reste à approfondir scientifiquement pour la santé mentale, respiratoire ou le risque d'allergie, explique cette sage-femme de formation. Concernant les modifications épigénétiques, on ne sait pas encore concrètement quel est l'impact clinique, c'est-à-dire chez l'enfant, précise Mme Lecorguier, alertant sur les raccourcis. L'alimentation pendant la grossesse joue un rôle majeur que l'on observe au niveau des populations, mais n'est pas synonyme de déterminisme au niveau individuel, insiste-t-elle, soulignant l'impact plus important du tabac ou de l'alcool, par exemple. Les conseils de Glucose Goddess s'articulent autour de 4 nutriments. Choline, DHA, un type spécifique d'oméga-3, protéines et glucose. Elle conseille ainsi aux femmes enceintes de manger 4 œufs par jour, d'augmenter leur apport quotidien en protéines et oméga-3 et d'éviter le sucre. Sans être dangereuse, ces préconisations ne correspondent pas exactement aux recommandations sanitaires. Manger 4 œufs par jour est un message qui n'a pas été évalué. On ne connaît pas l'effet de cette recommandation, pointe ainsi Mme Lecorguier. Discours culpabilisateur. Le professeur Olivier Morel, secrétaire général du Collège national des gynécologues et obstétriciens français, CNGOF, et le professeur Delphine Mitanchès, présidente de la Société française de médecine périnatale, SFMP, se montrent également sceptiques. Sauf pour ne pas abuser des produits sucrés, il n'y a pas de preuves appuyant ces préconisations, déclare-t-il, et une alimentation équilibrée apporte ces aliments en quantité suffisante. Jessie Inchospé écrit d'ailleurs au début de son livre que si vous ne mettez pas en pratique aucune des recommandations de ce livre, votre enfant ira probablement très bien. Interrogée par l'AFP sur ses critiques, l'influenceuse a affirmé ne pas dire que l'on peut contrôler l'apparition d'allergies ou d'autres maladies. Je parle toujours de probabilité, car c'est ce que la science nous montre. Elle défend aussi une approche cohérente avec de nombreuses recommandations internationales et juge que certaines recommandations françaises restent moins explicites ou opérationnelles, notamment sur la choline ou les apports optimaux en DHA. Mais ce discours, assez alarmiste, peut aussi être très culpabilisateur pour les femmes enceintes, risquant d'encourager des comportements alimentaires néfastes, regrette la diététicienne nutritionniste Anne-Laure Laratte. Et l'important demeure la prise en compte de la qualité globale de l'alimentation de la femme enceinte, souligne Mme Lecorguier. C'était « Alimentation et grossesse ». Le discours inexact et alarmiste d'une influenceuse pour contrôler les pics de glycémie inquiète les experts. Un texte paru le 8 avril 2026 sur tvanouvelles.ca.
La défense du Canada et de l'Arctique entre dans une nouvelle ère. Un texte de l'Agence France-Presse publié le 1er avril 2026 dans La Liberté. La défense du Canada et de l'Arctique entre dans une nouvelle ère, a estimé auprès de l'Agence France-Presse Jenny Carignan, la chef d'état-major canadienne, qui évoque un moment charnière en faisant le constat que la géographie, entre guillemets, ne protège plus le pays. Guillemets, aussi bien que dans le passé, fin des guillemets. Avec, à ses frontières, un seul voisin direct qui a toujours été considéré comme un allié, deux océans et l'Arctique, le Canada s'est construit sans craindre pour sa sécurité territoriale. Mais le réchauffement climatique et la fonte des glaces, qui rendent les terres du Nord plus accessibles et convoitées, ainsi que la montée des tensions avec le voisin américain, ont rebattu les cartes. Dans ce contexte, les forces armées canadiennes sont contraintes de se transformer profondément, a expliqué Jenny Carignan dans un entretien à l'Agence France-Presse à Ottawa. Arrivée comme chef des forces armées canadiennes en juillet 2024, Elle est la première femme à occuper ce poste dans un pays du G7. Évoquant le réchauffement climatique qui rend l'Arctique, et donc le nord du Canada, plus accessible, elle estime crucial que le pays, guillemets, se positionne de façon différente, fin des guillemets, aujourd'hui, pour, guillemets, s'assurer qu'on a le contrôle et qu'on prend nos responsabilités pour la défense de ce territoire. Il y a, c'est une citation, une modernisation de nos infrastructures, le prépositionnement du matériel et d'équipements, ellipse, et de plus en plus d'exercices et d'opérations militaires dans le Nord, fin de citation. Se réchauffant 3 à 4 fois plus vite que la planète, l'Arctique attire des convoitises grandissantes, la fonte des glaces marines permettant un accès accru aux ressources, hydrocarbures, minéraux, poissons, et l'ouverture de nouvelles voies maritimes. Investissement. Plus globalement, avec un environnement mondial qui, citation, a énormément changé au cours des dernières années, fin de citation, les forces armées canadiennes sont contraintes de se moderniser. Une évolution qui marque une rupture avec les 3 dernières décennies dominées par des missions expéditionnaires ciblées, comme en Afghanistan. Désormais, les forces canadiennes doivent se préparer à des conflits, guillemets, de plus grande envergure, fin des guillemets, nécessitant des équipements et des structures adaptées à des opérations conventionnelles entre armées, estime la générale. Parallèlement, Ottawa cherche à rééquilibrer ses filières d'approvisionnement pour rompre avec la dépendance américaine et a ainsi créé une agence dédiée aux investissements de défense pour renforcer sa base industrielle nationale. Cette transformation s'inscrit dans un effort budgétaire accru. Jenny Carignan se félicite que les dépenses militaires aient atteint cette année 2% du produit intérieur brut, atteignant la cible de l'OTAN. Mais elle estime, citation, que les investissements soutenus et stables au cours des prochains 10-15 ans, fin de citation, sont nécessaires pour mettre en œuvre ces efforts de transformation et de modernisation. Cette dernière, qui espère que son exemple puisse servir de modèle pour d'autres femmes, note que les efforts de recrutement portent leurs fruits actuellement au Canada avec un afflux récent de candidats. Avec sa nouvelle stratégie industrielle de défense, le pays a prévu d'injecter 500 milliards de dollars dans la défense au cours des 10 prochaines années. C'était « La défense du Canada et de l'Arctique entre dans une nouvelle ère », un texte de l'Agence France-Presse publié le 1er avril 2026 dans « La liberté ».